RCF. Le 18-19 en Nouvelle-Aquitaine, Blandine Jeanne.
Depuis plusieurs semaines, des milliers de manifestants descendent dans les rues en France. Chaque samedi, ils protestent contre la mise en place du pass sanitaire. Mais pour quelles raisons exactement? On en parle ce soir avec mon invité en studio à Bordeaux, Dieudonné Nard, qui manifeste chaque samedi depuis l'instauration de ce pass sanitaire. À 18h30, on retrouvera le journal régional présenté par Benjamin Dolo. Quels sont les titres ce soir?
Bonsoir Blandine, bonsoir à tous.
J'avais envie de vous en dire quelques mots.
Et on en saura plus à la fin de cette émission. Vous avez le programme. C'est parti, c'est 50 minutes d'infos en région.
RCF, le 18-19 en Nouvelle-Aquitaine.
Depuis plus d'un mois maintenant, des milliers de personnes descendent dans les rues des grandes villes en France, notamment à Bordeaux, le samedi pour manifester contre le pass sanitaire. Le pass sanitaire demandé en France depuis fin juillet provoque des crispations dans la société. Le gouvernement imposerait le pass sanitaire sans entendre d'autres voix, sans possibilité de doute. C'est un des arguments des manifestants du samedi dont vous faites partie, Dieudonné Nard. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors justement, quand est-ce que vous avez décidé d'aller dans la rue manifester contre ce pass sanitaire?
Dès la première manifestation, pour signifier de manière la plus simple possible notre désaccord.
Il y avait besoin de se rassembler à plusieurs pour justement faire entendre cette voix, c'est ça?
Ce qui m'a frappé depuis le début de cette crise, c'est que les espaces de dialogue sont fermés. La France est dirigée depuis plus d'un an par un conseil de guerre, et donc là, l'espace démocratique est mis sous le tapis, et ça me semble très grave. Voilà.
Alors, quelle a été votre motivation profonde à descendre dans la rue? C'est le vaccin, c'est le pass sanitaire, c'est un peu tout?
C'est le danger dans lequel nous sommes, de voir la montée d'un régime totalitaire. Nous avons un professeur en psychologie clinique, Mathias Desmet, qui a été interviewé il n'y a pas très longtemps par un avocat international, Rainer Fulmich, qui a fait plier Volkswagen dans le Dieselgate, qui a fait plier la Deutsche Bank dans des crises, dans des malversations, et encore Kühn & Nagel, un transporteur maritime international, le premier transporteur maritime international. Donc cet avocat de carrière internationale a dit que ce test PCR, ce qui est mis en œuvre au nom de ce test PCR, relève de crimes contre l'humanité. Donc ça me semble tellement grave comme enjeu ça mérite qu'on se fasse entendre de toutes les manières possibles.
Alors comment on peut dire qu'un test PCR, faire un lien entre un test PCR et un crime contre l'humanité, Jean?
Eh bien en fait, c'est parce que ce test PCR, tel qu'il a été conçu par son inventeur, n'a jamais été conçu pour être utilisé comme il l'est actuellement. C'est un instrument pour compléter un diagnostic clinique par un médecin, pas pour déterminer si on a tel droit ou si on ne l'a pas.
Alors, vous êtes dans un acte de résistance ou de méfiance, en fait, en allant dans la rue?
Je suis dans un acte d'alerte de mes compatriotes pour leur dire que nous sommes en train de vivre quelque chose de très très grave, c'est-à-dire que une dictature, on voit, il y a un dictateur et une fois qu'il a réussi à imposer sa force en faisant basculer, en faisant plier ses adversaires, il relâche la pression. Un régime totalitaire, il va jusqu'au suicide collectif, en fait, comme vous avez eu sous Staline, il a fait assassiner la moitié du Parti communiste. En fait, c'est une logique morbide, dirigée par une idéologie du type transhumaniste, comme on peut l'entendre dans les conférences qui sont données au Forum économique mondial sous l'autorité à Davos. Où vous pouvez entendre, par exemple, l'auteur du best-seller Sapiens, Harari, je crois qu'il s'appelle, lors d'une conférence qu'il a donnée au sommet de Davos, il explique qu'en fait, on va avoir des intelligences artificielles qui vont être plus intelligentes que nous et qui seront donc mieux placées que nous pour orienter nos décisions. Et à partir de là, il leur paraît naturel qu'on implante une puce, comme Elon Musk a commencé à le faire, dans notre cerveau, pour faire un humain augmenté, à l'aide d'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est une manière matérialiste de voir l'être humain qui occulte toutes les dimensions spirituelles, justement, de l'être humain. Nous sommes plus qu'un corps. Nous avons les expériences de mort imminente avec des électroencéphalogrammes plats qui montrent que notre conscience ne se réduit pas à notre cerveau. On a une conscience qui est bien plus large que juste notre corps. Et ça va dans le sens des personnes qui ont la foi, justement, de reconnaître qu'on puisse avoir une âme, qu'on puisse avoir justement une dimension qui ne se réduit pas à une machine biologique.
Mais la réalité de la crise sanitaire, elle est là, vous ne pouvez pas la contester, il y a les chiffres. Pour vous, comment on peut combattre ce virus? L'efficacité des vaccins et des gestes barrières aujourd'hui, par la communauté scientifique, c'est ce qui paraît le plus probant. C'est des faits, on ne peut pas le contester.
On a de la chance, c'est qu'on a encore des espaces de dialogue qui ne sont pas complètement fermés. Comme par exemple, vous avez le Conseil scientifique indépendant qui a été créé en janvier dernier avec de nombreux scientifiques qui représentent, je crois, à l'époque où il a été créé, il représentait 30 000 médecins, 30 000 soignants, 100 000 citoyens. Et ce Conseil scientifique indépendant amène, par exemple, une personne qui a travaillé à l'INSEE et qui est capable de décortiquer les chiffres et de nous dire que si on avait eu autant de morts en 2020 qu'on en a eu en 2015 de la grippe, il y aurait dû y avoir plus de morts qu'on en a eu. Donc, en 2015, on n'a pas mis l'économie à bas pour cette épidémie de grippe. Donc, à mon sens, c'est très important de réintroduire des espaces de dialogue où des points de vue différents pourront être entendus avec des scientifiques indépendants, pas des scientifiques comme ceux du conseil scientifique nommé par Macron, qui, je crois, a reçu à hauteur de 500 000 euros de conflits d'intérêts.
Alors, vous, dans votre entourage, vous n'êtes pas vacciné, ce n'est pas un secret aujourd'hui. Vous me disiez, ça provoque des crispations, cette non-vaccination autour de vous?
En fait, je pourrais être vacciné ou ne pas être vacciné. C'est un choix qui relève de l'intime, en fait. Ça relève du secret médical. On est en train d'assister à... je crois que c'est Michel Foucault qui parlait du biopouvoir. On est en train d'assister, au nom de notre santé, au nom de la peur qu'on arrive à générer au nom de notre santé, on arrive à donner un pouvoir excessif au champ politique.
Alors, justement, quand on est tous confrontés à ça, dans une famille, quand on est tous ensemble, vous allez manifester. Comment, justement, vos proches comprennent votre approche, justement, de ce que vous venez de me dire par rapport à la vaccination, par rapport au espace sanitaire? Est-ce que c'est simple aujourd'hui?
Non, bien sûr, il y a beaucoup de tensions. Je vous l'ai dit, là, juste avant de préparer l'émission, dans notre fratrie, on est 6. Il y en a la moitié qui ont choisi de se faire vacciner, l'autre pas. Et forcément, ça peut amener des conversations très crispé, très tendu. Je pense que c'est à la mesure de la peur qui a été entretenue, parce que c'est une stratégie d'ingénierie sociale, en fait. C'est pour amener une population entière à devenir beaucoup plus soumise à un agenda décidé par des personnes qui ont une vision, encore une fois, matérialiste de l'être humain. Et donc, c'est beaucoup plus facile de les contrôler à travers des stratégies où on leur fait progressivement accepter l'inacceptable, comme par exemple de diffuser en population générale une injection expérimentale pour laquelle les gens qui acceptent de se faire injecter cette substance à ARN modifié sont cobayes jusqu'en 2022, 2023 pour certains vaccins. Pour moi, ce sont des injections expérimentales.
Les vaccins ARN messagers, ils ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis des années.
Eh bien, justement, quand on entend des spécialistes je cherche son nom, Alexandra Henrion-Caude, qui a travaillé pendant 12 ans sur l'ARN messager et qui nous dit c'est monstrueux de mettre ça en œuvre aujourd'hui, quand on sait où on en est de notre ignorance à ce sujet. Ils ont fait quelques essais, mais c'est vraiment de l'expérimentation. Et c'est principalement sur des animaux que ça a été essayé. et très peu sur des humains. Là, on est en train de diffuser ça en population générale, alors que on a peu de retours. Alors, on commence à avoir des retours, et en Israël, paraît-il, ils sont très inquiets, parce qu'ils voient beaucoup de gens tomber malades, en Grande-Bretagne aussi, alors qu'ils sont les plus vaccinés.
Alors justement, de vos points de vue sur cette vaccination, des manifestations où vous participez le samedi parfois, on continuera à en parler dans quelques instants. Dieudonné Dar, vous restez avec moi, vous êtes mon invité tout au long de ce 18-19 en Nouvelle-Aquitaine.